Lors d'une visite à Toulouse en France, le chef de l'entité criminelle sioniste Isaac Herzog a réitéré ses accusations sans fondement contre l'Iran. Il a prétendu que l'Iran est la source centrale de la terreur internationale. La famille des nations doit s'unir contre l'Iran, a-t-il insisté. Comment peut-on analyser ces accusations sans fondement du chef de l'entité sioniste lors de sa rencontre avec le président français Emmanuel Macron? Pierre Dortiguier, politologue français, nous répond.
Les sionistes se rendent compte que, les intérêts des grandes puissances, malgré leur affrontement, c'est quand même de trouver un équilibre, c'est-à-dire de trouver, de ne pas vivre, disons, dans un chaos permanent. Et c'est en ce sens qu'il faut comprendre que les Américains, comme principale puissance finalement de l'Occident, ont accepté de retourner à la table des négociations et d'abandonner la politique, disons, brutale, pour ne pas dire autre chose, de M. Trump. Je crois que ceci déplaît profondément au milieu sioniste, disons, à l'entité sioniste, car elle ne peut vivre et survivre que par une sorte de mobilisation autour de sa propre survie, dit-elle. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle se sente menacée. Donc il faut qu'elle invente toujours un danger principal qui la menace. Et naturellement, elle a trouvé l'Iran. Car comment peut-elle dire, par exemple, que la Syrie, que le Liban la menace? Ce sont des pays, il faut le dire, malgré leur héroïsme, et cela n'en arrive rien à leur patriotisme, ont été quand même en grande partie ruinés, en grande partie affaiblis. Donc ils ne peuvent présenter aucun danger, même, je dirais, dans la propagande sioniste. Seul l'Iran est une sorte de menace, disons, à leurs yeux, c'est une sorte d'artifice, voyez-vous, qu'ils opposent aux grandes puissances et particulièrement, je dirais, aux États-Unis, en profitant de l'atmosphère d'affrontement qu'il y a aujourd'hui, voyez-vous, dans l'affaire d'Ukraine, par exemple. Et ils jouent un rôle, les sionistes, là, très actif. Et à Toulouse, qui est ma ville natale, vous savez, il y a eu cette réunion à propos de ce qu'on appelle chez nous l'affaire Mera, c'est-à-dire de ce garçon auquel on attribue, disons, les attentats. Bien, je ne parlerai pas du fond de l'affaire. J'ai eu des connaissances sur cette affaire-là, de l'intérieur, par, c'est pas du tout indiscret ce que je dis, par d'anciens élèves qui étaient mêlés, qui étaient dans les services de police à l'époque. Et donc, ce garçon, bon, on peut en dire beaucoup de choses, je ne me prononcerai pas sur le fond de l'affaire, mais ça a été l'occasion, disons, à notre avis, d'une sorte de semence, vous voyez, comme on dit en français, d'avertissement donné par le représentant de l'entité sioniste à M. Macron et aux autres autorités ici. Voyez-vous, c'est-à-dire qu'ils veulent les forcer à justement reprendre une atmosphère, disons, anti-iranienne, c'est-à-dire ils profitent de cette fusillade à Toulouse, voyez-vous, pour pouvoir, maintenir un état de tension en prétendant que l'entité sioniste est toujours menacée, alors que c'est elle qui menace, voyez-vous. Ça, c'est quand même quelque chose d'inouï. Et nous avons vu autour du président Macron, qui était en charge normale, nous avons vu des candidats, des représentants d'autres partis, voyez-vous, jusqu'aux partis les plus à gauche, voyez, qui étaient au service, justement, de l'entité sioniste, c'est-à-dire qui se prêtaient à ces discours que M. Netanyahou avait tenu à Toulouse, vous voyez, dans lequel il avait appelé à la mobilisation autour de l'entité sioniste. Et vous savez, ceci est resté très profondément ancré. Je rappelle que ma ville natale a quand même été la première ville jumelée avec Tel Aviv, hein, en 1962-63, par un maire qui était d'ailleurs opposé au général de Gaulle. Voilà, ce que je peux dire, c'est qu'il y a là, dans cette affaire de Toulouse, disons, la manifestation d'une agressivité israélienne continue, voyez-vous, et les désordres dans le monde aujourd'hui, en particulier j'appelle désordre ce qui se passe évidemment entre la Russie et l'Ukraine, ne peuvent que profiter justement à ces gens qui se présentent comme des arbitres, comme des victimes, et qui en réalité ambitionnent d'être des maîtres.